Il y a une période où on pensait que, si on résume dans le rétroviseur, les adolescents, surtout les adolescentes, pouvaient déclarer des choses qui étaient fausses. C'était la mythomanie chez l'enfant. Hein. On peut penser au film d'André Cayatte, Les risques du métier. On voit une adolescente qui accuse à tort son professeur. Donc là, on se méfiait des enfants. Ensuite, on a eu la médiatisation dans les années 80 et 90, dans toutes les démocraties, de l'inceste et de la pédophilie. Là, on s'est dit, bon, on passe à travers des. Donc, on a presque été tellement obsédé par l'idée de passer à travers qu'on s'est dit, les enfants disent toujours la vérité. Un enfant qui dit qu'il a été agressé, ça ne peut pas s'inventer. Donc, il y a eu cet excès-là. Ensuite, évidemment, on a eu outreau, des adultes, en tout cas in fine, ont été considérés comme étant accusés à tort. Et puis, on voit aujourd'hui, de nouveau, beaucoup de questionnements autour de la parole de l'enfant. Finalement, la parole de l'enfant, comme la parole d'un adulte qui prétend, qui dit qu'il a été agressé, ça doit s'écouter. Il y a une intelligence de l'écoute, mais ça doit passer au tamis de est-ce que c'est quelque chose qui a été vécu ou quelque chose qui peut avoir été répété. Dans une des grosses affaires en France, un enfant m'a dit, ben les autres le disaient, alors je l'ai répété, et après, il était prisonnier de son mensonge, il n'y avait plus de marche arrière. Donc au fond, regardez. Je vais donner quelques éléments que j'utilise moi, mais en les disant de façon très compréhensible. On est un adulte, on est un parent, on a un discours, qu'est-ce qu'on peut en faire? Un, est-ce que l'enfant nous dit quelque chose qui est assez concret? Est-ce que ce qu'il raconte, c'est concret? Ou c'est par exemple dire quelqu'un m'a fait du mal, on peut rien en dire. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est détaillé? Est-ce que c'est prononcé avec ses mots à lui? Pas des mots d'adulte. Premier élément. Deux, est-ce qu'il y a du matériel émotionnel? Si on a vécu ça, on se doute qu'en le racontant, soit l'enfant est ému, ou il dit qu'il était ému ou perturbé au moment où il l'a vécu. Donc, on recherche des émotions. Trois, on recherche qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête entre le moment où ça s'est passé et le moment où il me le rencontre, le moment du dévoilement. Et pourquoi il le dit pour la première fois à telle personne? Quel est le sens du fait qui fait qu'à cette personne, il a pensez le dire. Est-ce que la personne l'a cuisiné ou est-ce que c'est venu spontanément? Et puis, est-ce qu'il y a des signes post-traumatiques, des troubles du sommeil, des rêves, des cauchemars, des flashs, des diminutions de la capacité de travailler, des signes fonctionnels chez l'enfant, on a une boule dans la gorge, etc., les troubles du comportement chez l'adolescent. Donc, au fond, vous voyez, c'est une série de choses qui fait que un discours d'enfant peut être considéré, puisque maintenant, on emploie un mot le on n'a pas plus le mot crédibilité. Bon. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça tient le coup? Ou c'est un peu flou? C'est un peu vague? C'est compliqué. Aujourd'hui, évaluer la parole des enfants, souvent c'est vrai, d'où l'intelligence d'être dans l'écoute, mais en même temps, il y a effectivement des situations où, in fine, on n'aboutit pas à quelque chose qui s'est véritablement passé. Donc, c'est compliqué, là aussi, vérité du cas par cas, qualité de l'écoute, mais aussi intelligence des adultes à faire le tri, à essayer de voir, comme on dit dans le langage courant, si c'est du lard ou du cochon, est-ce que ça tient ou est-ce que ça ne tient pas? Et puis, je vais le dire parce que c'est compliqué, ça m'est arrivé rarement, mais il y a des affaires où, même pour des experts professionnels, c'est indécidable. Plus l'enfant est petit, plus l'enfant s'exprime mal, plus l'enfant a une mauvaise mémoire, plus, parfois, il faut le reconnaître, c'est difficile d'authentifier, d'avoir un minimum de certitude que c'est vrai, et puis parce que c'est aussi l'enjeu de la condamnation de l'être humain. Donc, la parole de l'enfant, ça doit s'écouter. Il y a beaucoup de progrès pour la qualité et le contexte de l'écoute pour accoucher de sa parole. Et en même temps, il ne faut pas prendre toujours la parole de l'enfant pour argent comptant. Voilà un petit peu la difficulté là aussi. Et plus l'enfant est petit, plus c'est un vrai défi d'évaluer la parole de l'enfant.
Les enfants ont envie que ça s'arrête, cherchent pas forcément à faire exploser la famille ou le réseau amical ou à faire fermer la catéchèse ou l'association sportive. Et donc, au-delà de dénoncer leur mal-être, leur souffrance, leur désaccord sur ce que leur impose, ils perçoivent bien, et l'auteur n'aura pas manqué de leur souligner, que toute révélation va entraîner des réactions en chaîne absolument catastrophiques.
Un tremblement de terre dans sa vie d'enfant, quoi.
Voilà. Et donc...
Tout va être bousculé.
Comment à la fois punir sans que l'enfant se sente, l'enfant ou le jeune se sente coupable d'exploser la famille, qui tout d'un coup n'a plus de ressources. Donc tout le monde lui dit, t'as bien fait de parler, puis en même temps, ils lui en veulent parce qu'il n'y a plus les ressources financières et que... voilà, et puis on lui dit, oui, qu'il a envoyé papa ou tonton ou le voisin en prison, que s'il n'y a plus d'entraîneur de foot alors qu'ils allaient gagner je ne sais quel championnat, c'est de sa faute. Donc au-delà de sa souffrance et de son envie, de son désir bien fondé, que tout ça s'arrête, il se rend bien compte qu'il va provoquer vraiment une catastrophe et que on va bien le lui reprocher. Pas tout le monde, mais on va le lui reprocher. Donc, c'est lourd pour un gamin.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.